RCF.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Angle. La Bible est-elle encore réellement une parole vivante pour nous aujourd'hui ? Comment la comprendre et comment s'en nourrir ? À l'occasion du dimanche de la parole de Dieu institué par le pape François, dimanche qui vient, 26 janvier, et en partenariat avec Prions Église, eh bien nous allons ensemble nous demander comment devenir des familiers de l'Écriture. Et avec nous pour en parler ce soir, eh bien j'ai trois invités. Karem Boustika, bonsoir.
Bonsoir Faustine.
Vous êtes rédactrice en chef de Prions en Église. Donc Prions en Église, mais toute une opération pour porter ce dimanche de la parole de Dieu, on va en parler. Jacques Nieuwaerts, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes prêtre assomptionniste, exégète, donc familier de la parole de Dieu, et puis conseiller éditorial à Prions en Église. Et Isabelle Carouet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, animatrice d'un atelier de Bible gestuée de l'association Paroles et Gestes. Vous allez nous dire aussi ce que c'est. La parole, est-ce une parole vivante ? Nous en parlons aujourd'hui dans Grand Angle.
Grand Angle, proposé par Faustine Fayette.
Alors, le pape François a écrit une lettre, Aperuit Illis. Dedans, voici ce qu'il dit. La relation entre le ressuscité, la communauté des croyants et l'Écriture sainte est extrêmement vitale pour notre identité. Saint Jérôme pouvait écrire « Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Alors comme d'habitude, le pape François a des paroles fortes. Alors je vais peut-être me tourner vers le père Jacques Nieuwaerts. Le pape François, il nous appelle à revenir à la source, à la radicalité de l'Évangile. Alors pourquoi là cet appel à la parole de Dieu et ce dimanche de la parole de Dieu ?
Je crois que pour le pape François, c'est une idée qui lui tient à cœur. C'est un désir qu'il porte depuis longtemps. À la clôture du jubilé de la miséricorde, il avait dit qu'il souhaiterait qu'il y ait un dimanche de la parole de Dieu. Alors disons-le tout de suite, un dimanche, pas pour qu'après les affaires soient réglées, on retourne à notre quotidien, un dimanche pour qu'on ait vraiment pris à ce point le goût de la parole de Dieu et de la célébrer, de l'accueillir, que on a envie chaque jour d'y revenir, de la goûter, d'en faire ou le socle, ou si vous voulez, la sève de notre vie. Et vous avez cité deux phrases, celle de Saint Jérôme.
Oui,
et d'ailleurs,
très forte, oui.
Et le document du pape a été signé le jour de la fête de Saint Jérôme.
Ah oui, alors pourquoi le Saint Jérôme ?
Eh bien, il est le patron des biblistes, on va dire, mais il est surtout celui qui a traduit la Bible à Bethléem, la Bible en latin, la Vulgate. Vulgate, ça veut dire la langue du peuple, pour que le peuple tout entier et la parole de Dieu. Alors c'est une longue histoire cette traduction, mais Jérôme, dans une grotte de Bethléem, est vraiment l'homme qui a porté ce désir. Et il disait même dans une grande discussion avec Saint Augustin lui dit « Tu te rends compte, tu traduis la Bible ?» Il dit « Oui, mais en traduisant la Bible, j'ai mis ma main dans le feu. » Donc pour dire que la parole de Dieu, on en a une responsabilité parce que c'est un trésor. Et le pape François, donc désirait depuis longtemps un dimanche de la parole de Dieu, il vient de l'instituer. Pourquoi le troisième dimanche ordinaire cette année, le 26 janvier ? Parce que c'est le troisième dimanche ordinaire sera toujours vers cette date qui est inclus dans ou juste auprès de la grande semaine de prière des chrétiens pour l'unité.
Des chrétiens.
Voilà.
Oui.
Et il dit, mais voilà, cette parole, elle est le socle pour tous et elle est le socle aussi dans une fraternité avec le peuple juif. Donc, un désir de communion, de fraternité, parce que la parole de Dieu, ouvre à la fraternité.
Alors c'est incroyable parce qu'on se dit, ça démarre avec cette traduction là de Saint Jérôme dans une grotte à Bethléem. Aujourd'hui, la Bible, c'est quand même le livre le plus traduit au monde entier. Alors j'ai regardé, j'espère que mes chiffres sont assez justes, mais que la Bible est au moins traduite dans plus de 500 langues. Le Nouveau Testament, c'est encore plus, parce qu'il y a des dialectes. Enfin, c'est quand même assez fou de savoir que voilà, c'est parti d'un homme.
Mais il faut dire non pas d'un homme. Jérôme a marqué vraiment une date, hein, mais depuis toujours la Bible s'est transmise. Mmh. Elle s'est toujours transmise en s'acclimatant à la langue du peuple, à sa culture. Quand le peuple juif est revenu de la déportation en Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ, il parlait la langue qu'on parlait à Babylone, l'araméen, qui était la langue parlée au temps de Jésus. Et donc, quand on lisait la Bible en hébreu, plus personne ne la comprenait. Elle était traduite déjà, et elle a été traduite ensuite dans les tout premiers siècles avant Jésus, en grec, parce qu'il y avait une communauté juive très importante à Alexandrie. Donc la Bible a besoin de faire partie de notre vie. Et le pape François rappelle le Concile Vatican II, qui disait, alors, vous savez, quand l'année de la miséricorde a été ouverte juste au 50e anniversaire du Concile Vatican II. Hein, et le Concile Vatican II, a cette parole magnifique qui retrouve la grande intuition des pères de l'Église. Les paroles de Dieu passent par les langues humaines. Elles sont devenues semblables au langage des hommes, comme le Verbe est devenu semblable aux hommes. Et un exégète disait, mais finalement, Dieu, dans la parole de la Bible, Dieu non seulement s'est fait homme, mais il a parlé homme, il a parlé la langue des hommes. Et cette intuition du Concile, l'Église a toujours vénéré les divines Écritures, comme elle le fait aussi pour le corps même du Seigneur. Écoutez, elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie de la table de la parole de Dieu et de celle du Christ pour l'offrir aux fidèles. C'est que écouter, partager la parole de Dieu, c'est déjà partager la présence vivante du Christ. C'est déjà participer au corps du Christ, partager le corps du Christ. Et dans une semaine, quand c'est au moment de la prière de la semaine où l'Église essaie de s'associer au désir du Christ, d'une Église une pour être témoin de l'Évangile au cœur du monde, de la bonne nouvelle d'un Dieu qui aime l'humanité, eh bien, dans la semaine de l'unité, ça prend beaucoup de sens. Oui. C'est-à-dire que partageant la parole, nous partageons déjà la présence vivante du ressuscité.
Ça, c'est une chose sur laquelle le pape François insiste, cette fraternité, cette unité. Et je voudrais citer une autre phrase de sa lettre. Il dit « La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques privilégiés, mais elle appartient avant tout au peuple convoqué pour l'écouter et se reconnaître dans cette parole. » Donc il y a un besoin, peut-être un diagnostic que fait le pape et que vous faites peut-être, on en parlera avec Prie en Église, mais il y a un besoin d'ouvrir cette parole à tous. Est-ce que ça veut dire que ces dernières dizaines d'années peut-être, elle aurait été un peu trop confisquée ou on a été peut-être un peu trop timide à retourner dans la Bible?
Vous savez, jusque dans les années 1950, jusque dans ces années-là, dans les milieux catholiques, la Bible n'avait pas une grande place dans la vie du peuple de Dieu. Elle en avait beaucoup plus dans les églises protestantes. Et c'est surtout depuis le grand renouveau biblique, donc depuis les années 1950, que la Bible est vraiment entrée de mille façons dans la vie du peuple de Dieu. Mais on pourrait encore penser que pour lire la Bible, il faut des spécialistes. Et il en faut parfois, mais qu'il faut être spécialiste. Et le pape dit non, la Bible, c'est la nourriture du peuple de Dieu. Alors se former à la lire, c'est extrêmement important, mais Le titre que vous avez rappelé pour la lettre...
Aperuit Illis.
Oui, il leur ouvrit. Qui est-ce qui leur ouvrit? C'est Emmaüs. C'est au texte, c'est le grand texte des disciples d'Emmaüs. C'est Jésus ressuscité qui ouvre les Écritures aux disciples qui sont dans le deuil, dans l'écrasement. Il leur ouvre le cœur à la compréhension des Écritures. Et le pape dit bien, c'est Jésus qui ouvre les Écritures. Et donc toute personne qui ouvre les Écritures, si elle s'ouvre le cœur, est ouverte à ce que Jésus ouvre dans le cœur.
Alors, prier en église, Carême, vous en êtes la représentante, là, justement, saisie, je pense, au vol, cette invitation, cet appel du pape. Donc, c'est une revue de textes liturgiques pour suivre, voilà, l'Eucharistie. Comment vous avez peut-être écouté ce que disent vos lecteurs dans ce goût de la parole et peut-être comment vous vous êtes dit, ben, il faut aller plus loin?
Et merci Faustine. Et de fait, ça fait plus de 30 ans que Prions en Église accompagne les lecteurs justement pour écouter et pour ouvrir le cœur à cette parole. Et pour dire que cette parole n'est pas qu'une question, enfin, n'est pas juste pour des spécialistes en fait. Plutôt, c'est la parole pour tout le monde. C'est la parole qui est destinée à qui que l'on soit. Et qu'on puisse l'ouvrir et qu'on puisse la lire. Et quand le pape François nous invite à faire ce dimanche de la parole, il nous dit que la Bible n'est pas le privilège de quelques élites. Il a un mot un peu comme ça, et qui du coup a rejoint profondément la mission de Prions en Église. Parce que notre vocation, c'est justement de faire de cette parole, eh bien, la parole, tu disais, Jacques, la parole du peuple, et la parole pour laquelle la seule chose qui nous est demandée, c'est vraiment d'avoir envie de la lire et d'avoir envie de l'écouter et d'entrer, de l'accueillir et voilà, et de cheminer avec elle.
Alors du coup, à partir de ça, éditorialement, comment on fait ?
Alors, éditorialement, on fait beaucoup de choses. Et bon, il y a des choses. Le titre de l'émission, tu as parlé d'une parole vivante, oui. Voilà. Et ça, pour Prions, c'est très important. Et à Prions en Église, nous croyons que la parole elle est vivante et qu'elle parle encore aujourd'hui. C'est pourquoi, et tous les jours, elle est commentée par des hommes, des femmes qui vivent dans le même monde que nous, voilà. Et des hommes, des femmes, et des prêtres, des laïcs, des religieux, vraiment une très grande diversité qui vivent en France, qui vivent en Afrique. Enfin, et on a beaucoup des diversités dans cet apport de ce que la parole elle dit aujourd'hui et comment elle vit aujourd'hui. Et pour cet événement donc de dimanche, et Prions en Église a mis ses trésors. On a parlé de la parole comme un trésor. Et effectivement, donc nous avons mis à la disposition de tous ceux qui veulent aller sur le site de Prions en Église et tout un tas des compléments, des aides, de sorte à pouvoir faire de ce trésor quelque chose de disponible à tout le monde. Et pour comprendre, mais aussi pour animer des temps de prière, des temps de partage, pour animer la messe, pour chanter, pour prier avec les enfants. Enfin voilà, on pourra détailler ça si c'est intéressant. Mais dans tous les cas, le trésor que nous avions appris en Église, qui est justement cette médiation entre la parole et le lecteur, eh bien, nous avons voulu le mettre à la portée de tous. Et déjà, d'une part, dans le site internet. Et puis, quelque chose de très intéressant, c'est que nous allons ouvrir nos contenus et premium, c'est-à-dire qui d'habitude sont destinés et aux abonnés de Prions en Église. Donc, ces contenus qui se trouvent sur l'application et qui se trouvent sur le site internet, ils seront ouverts, c'est gratuit, et pour tout le monde, que l'on soit abonné ou non à Prions en Église. Et ceci dans la semaine qui commence dimanche et qui s'achève dimanche 2 février.
Alors, on peut retrouver tous ces contenus donc sur prieneglise.fr/dimanche-parole. Et alors, en regardant un petit peu ces contenus, j'ai vu qu'une des choses, c'était peut-être déjà de revenir un petit peu à ce que nous disait le pape. C'est pour ça qu'on a un peu ouvert cette émission avec les paroles du pape, parce qu'il nous donne aussi une orientation. Père Jacques, vous avez un peu travaillé justement cette lettre, enfin un peu beaucoup même, et vous proposez, je crois, un parcours en tout cas ça a été travaillé j'imagine avec l'équipe, un parcours pour mieux comprendre et s'approprier peut-être les mots du pape. Est-ce que vous pouvez en dire, est-ce que vous pouvez nous donner le goût et l'envie d'aller voir ce parcours?
Alors le parcours je l'ai un peu ouvert et c'est Carême comme rédactrice en chef qui peut en parler de façon plus forte que moi. Bien c'était justement de retracer cette histoire et de ce qui a poussé le pape à écrire cette lettre et faire en sorte qu'on soit tous touchés par le désir de goûter à la parole de Dieu. Et puis de savoir que ce n'est pas une lubie passagère. Donc tout à l'heure, je rappelais depuis Saint Jérôme et puis le Concile Vatican II qui a repris ce que disaient les pères, le peuple de Dieu est nourri à la table du pain et à la table de la parole, les deux. Et puis le pape Benoît a repris cela. Vous savez, il y a eu le synode sur la parole de Dieu.
Et oui,
à l'issue du
Benoît
XVI
avait écrit
Benoît XVI,
un
document, Verbum Domini. Alors le document du concile c'était Dei Verbum, la parole de Dieu, et Benoît XVI Verbum Domini, la parole du Seigneur. Comment l'Église vit de la parole de son Seigneur ressuscité. Et le pape Benoît XVI insistait sur le fait que il n'y a pas la parole de Dieu dans une communauté chrétienne, c'est pas le groupe biblique de 5 à 7, que c'est chaque activité, que c'est tout rassemblement des chrétiens qui a besoin de prendre sa source dans la parole.
Et d'ailleurs, le pape François, il rappelle dans sa lettre, parce qu'il est assez concret, vraiment à plusieurs moments,
absolument.
Et il dit bien que voilà, l'homélie des prêtres doit bien rendre accessible et donner ce goût dont vous parlez, que les catéchistes, ils ont leur part à prendre et que tout le monde doit être annonciateur.
Alors, il y a quelques points, mais que je laisse, bien sûr, Carême développer si elle le souhaite, puisque c'est elle qui pense un petit peu comment prions.
C'est la tête pensante, alors.
Oui.
On va se tourner vers Carême.
Qui fait vivre l'équipe pour justement trouver ensemble par quels moyens on peut au maximum servir la parole de Dieu. Et le pape dit pour ce jour-là, eh bien, il faut mettre en valeur la parole de Dieu. Oui. Voilà, je pense à certaines célébrations que, en particulier, les Africains savent faire en dansant avec le livre de la parole, etc. Voilà, faire en sorte de mettre en valeur la parole de Dieu. Il serait important que dans la célébration eucharistique, on puisse introduire le texte sacré de manière à rendre évidente à l'assemblée la valeur normative que possède la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est vraiment le socle, le guide. Et puis ensuite, le pape dit il faut soigner sa proclamation. Et il souhaite que on fasse tout pour former des lecteurs. Beaucoup de gens se proposent comme lecteurs et c'est grandiose pour l'Église, aimer partager sous cette forme. Mais le pape dit il faut se former pour qu'elle soit communiquée toujours comme une parole vivante. Et on a tous du travail à faire. Donc se former pour soigner la proclamation. Après, bien sûr, adapter l'homélie. Et le pape, comme l'avait fait le Benoît XVI, rappelle que l'homélie, c'est le point de rencontre vivant entre la parole accueillie dans le cœur des fidèles et qui touche leur vie, comme accueillie comme une bonne nouvelle, que l'homélie permet de goûter la parole. L'homélie n'est pas un temps où on doit passer des annonces, ni faire des développements théoriques. C'est le moment d'ouvrir la parole. Et le pape dit surtout, ouvrez toujours la parole. Méditez-la avant, priez-la et ouvrez-la comme une parole savoureuse et nutritive pour la vie. Ensuite, il dit, mais il faut inviter à ouvrir le livre. Et il dit, mais peut-être inviter à ouvrir le livre, justement, que l'on sache que ce n'est pas le dimanche 26 janvier et après on éteint les lumières.
Oui.
Non, que ce soit le début d'une prise à cœur de la parole. Et puis, donner à lire la parole de Dieu, il suggère même, chaque fois qu'on le peut, offrir le livre de la parole ou un évangile pour que chacun l'emmène et sache que elle peut, comme on le disait tout à l'heure, elle peut être dans son quotidien. Mmh. Oui, moi aussi, je peux lire la parole. Je suis pas un savant. Mais non, faut pas être savant pour lire la parole. Il faut lire la parole, ouvrir son cœur, demander à l'Esprit Saint d'ouvrir cette parole en nous, comme le Christ ressuscité l'a ouvert aux disciples.
Alors vous avez lâché plein de mots importants, on va revenir dessus. Aujourd'hui on parle de la parole de Dieu, on parle de cette parole vivante. Ça me fait un peu penser à la Saint-Valentin, là. Ce dimanche on va célébrer peut-être cet amour de la parole de Dieu, mais qui se célèbre en fait tous les jours. Restez avec nous, et puis Karem Boustika va nous parler tout de suite après de ce parcours et de tout ce que Prie en Église met en œuvre. Vous êtes dans Grand Angle sur RCF.
Que ta parole éclaire mes pas, je te suivrai Seigneur, car tu es le chemin, fais-moi connaître tes volontés, en toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur, il s'est penché
éclaire mes pas, c'est un chant de la communauté de l'Emmanuel, et justement, on parle de cette parole de Dieu qui est, est-ce qu'elle est bien vivante pour tout le monde aujourd'hui ? Eh bien, on en parle dans Grand Angle.
Grand Angle, Faustine Fayette.
Alors, on vient d'évoquer un petit peu la lettre du pape François, son invitation, avec, comme à son habitude, hein, des mots forts. Et puis, il est concret, hein, le pape François. Et il y en a d'autres, hein, qui sont concrets. C'est prions en Église. Donc, vous suivez aussi ce désir des lecteurs, d'accompagner les lecteurs. Alors, Karem Boustika, avec nous, qui est rédactrice en chef donc de Prions en Église, donc va rebondir par rapport à ce que vient de nous dire le père Jacques Neuwartz, qui est le conseiller éditorial de Prie en Église, et puis qui travaille aussi cette parole de Dieu en tant qu'exégète. Karem, qu'est-ce que donc vous mettez en place concrètement ? Parce que je crois que justement, il y a un parcours, il y a de la musique,
voilà,
il y a plein de choses.
Oui, il y a un parcours, effectivement. Merci Faustine. Et il y a quelque chose qui est très, je trouve, original, que nous avons fait donc dans l'équipe de rédaction des Prions en Église. Ce sont les 7 pistes pour se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, la parole de Dieu, elle est vivante. Et il nous semblait important d'ouvrir des pistes pour ceux qui n'auraient pas d'autres idées, pour ceux qui seraient un peu tout seuls, pour ceux qui voudraient s'associer à ce dimanche et qui n'auraient pas beaucoup de moyens. Alors, la première piste, naturellement, c'est ouvrir la Bible. Ouvrir la Bible, eh bien, parce que pour tous, tout le monde doit ouvrir la Bible, chacun peut se l'approprier, lire un livre biblique dans son intégralité. Ça peut être fait seul ou avec d'autres. C'est vraiment une expérience, une richesse inestimable. Et un deuxième... nous avons fait donc cette piste et cette entrée avec chaque fois quelque chose de concret que chacun, là où il en est, peut s'approprier. Je vais vous lire les pistes d'abord et puis après on pourra détailler l'un ou l'autre point. Donc la première, c'est ouvrir la Bible. La deuxième, c'est prier avec les Écritures. Parce qu'une fois qu'on a ouvert la Bible, c'est pas dit qu'on est prié. Donc faire le pas de plus qui est prier avec les Écritures. La troisième piste, c'est découvrir le Christ. Parce qu'on ne lit pas non plus la Bible comme si c'était un livre de bibliothèque ou un ancien manuscrit, mais c'est y découvrir le Christ. La quatrième piste, très importante aussi, partager. Tout à l'heure, on disait que la Bible, elle était un trésor, un socle, une source, tu nous as dit, de fraternité. Ce mot de partager, c'est très important. La cinquième piste, c'est se laisser bousculer, se laisser interroger. Comment cette Bible me parle et qu'est-ce qu'elle me dit pour aujourd'hui? La sixième piste, c'est grandir en charité, voilà. Et la septième piste, c'est imiter Marie. Et on ne l'a pas inventé, on l'a sorti donc, de la lettre du pape, naturellement. Mais voilà, chacune de ces pistes nous amène à des choses très, très concrètes. Par exemple, celle de découvrir le Christ. Et le numéro 7 de la lettre du pape nous dit « La Bible, en tant qu'écriture sainte, parle du Christ et l'annonce comme celui qui doit traverser les souffrances pour entrer dans la gloire. » Et alors, nous comprenons ça et nous disons « Tout l'Ancien Testament prend sens à la lumière des évangiles. C'est pourquoi les évangélistes le citent souvent. » Et alors, comme idée, on dit à nos lecteurs, et si je repérais dans l'évangile de Matthieu, c'est celui que nous lisons cette année, donc si nous repérions dans cet évangile-là quelques citations de l'Ancien Testament pour comprendre comment elle parle du Christ. Donc, à chaque fois, il y a des petites idées, des petites invitations, comme la rubrique d'ailleurs, l'invitation de la revue Prions, qui sont des façons très concrètes de lier la vie et voilà, et la foi.
Et ça, c'est important parce que parfois, justement, on ne sait pas comment faire. On ouvre la Bible. À la limite, déjà, on ose ouvrir la Bible. Mais après, c'est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu. Alors, je voudrais qu'on voit peut-être une autre façon d'entrer dans les Écritures et d'entrer dans la Bible qui rejoint un peu le parcours et puis les intuitions de prier en Église. Parce qu'on a parlé de partager, de découvrir le Christ, peut-être de grandir en charité. Alors, je voudrais, Isabelle Carouet, donc vous êtes animatrice d'un atelier de Bible gestuée. Alors, peut-être vous allez pouvoir nous dire déjà qu'est-ce que c'est la Bible gestuée. Et puis voilà, est-ce que ça rejoint un petit peu là ce que vous avez entendu? Voilà.
Okay, les récitatifs bibliques, oui, ce sont des passages bibliques qui ont été travaillés, qui ont été au plus près de la traduction pour repérer les rythmes, la structure du texte et mis en geste. Et donc, sur une mélodie simple et un balancement, nous gestions la parole. Et elle touche au cœur de façon assez incroyable. En général, les personnes sont extrêmement remuées par tel ou tel geste qui les rejoint. En quelque sorte, il y a une incorporation de la parole.
C'est sur des courts passages, en général.
Alors oui, c'est ça. Disons que ça dépend, parce que quelquefois, ça peut être dans des week-ends, on apprend des gros morceaux, l'hymne à l'amour ou des passages évangéliques plus importants. Mais bon, sur une heure et demie, soit on prend un morceau, enfin un grand texte par morceau, soit des petits textes. Il y a quelquefois des perles où un seul verset dit énormément de choses, comme dans Apocalypse, je suis à la porte et je frappe.
Ça, c'est la grâce de la Bible.
Voilà, il y a quelques fois en un seul verset. Donc, on a 27 groupes en France qui sont beaucoup dans le sud-est, puisqu'il y avait les fondateurs de l'association sont issus de cette région.
C'est l'association Parole et Gestes.
Parole et Gestes, oui, qui existe depuis 2005. D'accord. Et qui, au départ, était vraiment très liée à des populations, s'adressait à des populations, des personnes en fragilité. Et ça, c'est quelque chose qui restait dans l'association, une grande vigilance aux personnes en fragilité. Et c'est très émouvant dans certains week-ends de formation. Il y a quelques personnes qui ont un léger handicap mental et qui sont tellement heureuses d'être là, qui se sentent complètement intégrées. Et on sent qu'il y a quelque chose de vraiment évangélique dans ces moments de vie ensemble, de communion dans la Parce que finalement, par les gestes, ça donne aux personnes un moyen de parler de Dieu, en disant des choses très simplement, commentant le geste, et ça leur donne vraiment non seulement une place, mais aussi la parole.
Il y a quelque chose de très fort, parce que ça incarne vraiment cette parole, qui déjà elle-même, dans les mots que vous employez toujours, Père Jacques, il y avait presque, on sentait cette incarnation, ce goût.
Il y a une incorporation quelque sorte. On dit que la parole s'imprime en nous, voilà, quelque part.
Vous avez découvert cette façon de découvrir la Bible. Vous l'avez. À quel moment vous avez fait cette expérience et comment ça vous a touché?
Alors c'était je fais partie de la communauté de vie chrétienne et c'était lors d'un congrès où ça m'a vraiment, on a tous ensemble, on était 4000 personnes et il y a une personne qui nous a proposé de gestuer le souffle où il veut souffle et nul ne sait où il va et en fait c'était très très impressionnant, ça m'a vraiment touchée et j'ai eu envie de creuser cette manière d'approcher la Bible et donc je suis allée à certains week-ends à Bondy, en région parisienne, c'était le plus proche de chez moi et puis ensuite à d'autres week-ends de formation donc, et petit à petit j'ai eu envie de partager autour de moi cette manière d'approcher les textes et je suis toujours très touchée, par exemple, c'était des personnes très âgées qui sont venues et qui ont été remuées. C'est-à-dire, par exemple, le geste du baptême, où en fait, donc l'eau coule sur la tête et sur tout le corps.
Le geste de l'eau qui coule.
Et ça donne des sensations presque, des sensations physiques. Les personnes disent, c'est quelque chose au-delà des mots, en quelque sorte. Et on se sent enveloppé par l'amour du Seigneur, en fait, à travers ce geste. Et il y a d'autres gestes comme par exemple délier, où on a les poings croisés devant et qui se retournent et qui s'ouvrent.
On a presque envie de prendre des vidéos pour vous voir.
Ah, oui,
on voilà, délie avec les mains.
Voilà, on délie avec les mains et c'est le Seigneur qui nous sauve, qui nous ouvre et qui nous invite à nous laisser visiter par lui dans les zones qui sont encore fermées en nous et pour nous sauver, pour nous ouvrir. Donc, et ça, ce geste, on le retrouve, délivre-nous du mal dans le Notre Père, ou dans certains gestes.
En plus, c'est des mots forts.
Des paraboles de guérison aussi. Le démon est sorti hors de ta fille, dans la syrophénicienne, par exemple. Donc, c'est très fort.
C'est vrai qu'en faisant le geste, on vit, en fait, peut-être plus profondément, on perçoit plus profondément le sens du mot.
Il y a quelque chose qui rejoint en nous, à la jointure des os, on pourrait dire, je crois que ça, c'est quelque part dans Saint-Paul, je crois.
On retrouve presque ce qu'on dit souvent, on en a beaucoup entendu parler pendant le jubilé de la miséricorde, de revenir au sens du mot, les entrailles. Chose, c'est vraiment, on vit ça au cœur.
Tout à fait. Alors, ce geste de la miséricorde, c'est aussi un des gestes très importants. Donc, on part du ventre et en fait, après, on quelque chose d'enveloppant. C'est comme si on malaxait nos entrailles. Après, elles enveloppent, elles protègent, avec une bienveillance, une douceur, une tendresse qui dit cette tendresse du cœur, de la miséricorde. Enfin, ça vient des entrailles de Dieu.
Il y a un geste qui dit la parole de Dieu.
Alors, la parole, oui, elle part
part du cœur.
Et elle nous traverse. Et
elle traverse à travers la bouche.
Mais elle part de l'intérieur du cœur, oui. Voilà, la parole.
Non, on prend des petits cours. Père Jacques Carême, vous avez déjà expérimenté la parole gestuée, Père Jacques?
Personnellement, pas directement. J'ai plusieurs amis qui pratiquaient cette méthode de lecture inspirée du Père Jousse, je crois.
Ça, oui.
Et voilà. Et donc, personnellement, je l'ai pas expérimenté. Mais lorsque vous parliez, effectivement, comme disait Faustine, on vous voyait faire les gestes et il aurait fallu la vidéo pour tout le monde. Eh bien, on voit comment la parole prend le corps. Et c'est comment ça. Ce n'est pas une parole qui touche simplement la tête, l'esprit, c'est pas intellectuel, c'est pas mental, c'est une parole qui nous rejoint en entier. Et vous parliez d'incorporation et d'incarnation, enfin, le verbe s'est fait chair. Et donc, ce que vous dites, c'est que le lecteur, eh bien, il est touché dans sa chair. Et d'ailleurs, c'est une des grandes affirmations de l'Église, c'est que la parole de Dieu est inspirée, ceux qui l'écrivirent étaient inspirés, mais celui qui la lit aujourd'hui, celle qui la lit, est inspirée. Elle aussi. Mmh. Et l'inspiration, elle s'arrête pas. Si moi-même, je ne suis pas inspiré, c'est un bouquin qui reste lettre morte. Et c'est aussi quelque chose que rappelle le pape. Il dit, on n'est pas une religion du livre. Une religion du livre. Le pape Benoît XVI le disait beaucoup aussi, mais de la parole. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, dans le cas de la liturgie, on proclame l'évangile, et on dit acclamons la parole de Dieu, et la réponse de l'assemblée, louange à toi, Seigneur Jésus. Mmh. C'est-à-dire, c'est le Christ qui est entré dans son peuple. Je relisais aussi, je connais un petit peu moins la liturgie protestante, mais je relisais un texte de Dietrich Bonhoeffer qui dit, mais lorsque la parole est proclamée, elle circule dans l'assemblée. D'elle-même, elle circule, elle fait son action, elle nous saisit. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Beaucoup disent, mais alors, et moi, c'est sympa ce qu'ils disent, mais moi, ça me fait pas cet effet-là. Eh bien, je pense que quand on lit un texte, il y a deux ou trois petites choses très simples. Eh bien, on lit le texte et on le lit posément, puis on le relit. On le relit en écoutant intérieurement que c'est une parole qui nous est adressée. Et donc, cette parole nous touche. Et comme quand nous parlons, eh bien, on peut parler pendant une heure et il y aura trois mots qui vont se déposer. Eh bien, c'est comme ça que Dieu parle. Nous lisons et nous ouvrons le cœur pour accueillir intérieurement. Et peut-être il y aura une parole, une phrase. Et elle est une nourriture. Les moines disent la rumination de la parole. Les ruminants, on sait ce que c'est. Hein. Mais voilà, la rumination de la parole, c'est-à-dire cette parole, pour parler un peu comme dans certaines régions du Sud, je me la prends, je me la mange et je me la goûte. Hein, voilà, et donc on l'accueille. Une deuxième chose, c'est je lis ce texte du dimanche et je me dis ben, qu'est-ce que je veux bien entendre dans l'homélie, parce que moi je suis pas inspiré. Eh bien, il faut avoir la curiosité d'aller un petit peu dans le texte qui précède, donc d'un dimanche sur l'autre, c'est souvent le dimanche d'avant, ou dans la Bible, hein, d'aller un petit peu avant, éventuellement un peu après. Et le contexte donne, éclaire le sens. Donc, et puis après, eh bien, éventuellement, quand on lit une Bible, il y a des notes. Alors, si elles nous effraient, il faut les laisser. Mais elles peuvent nous aider. Alors, on peut les lire. Mais dans tous les cas, il ne faut jamais s'effrayer. La Bible est un livre ami. C'est un livre ami et plus qu'un livre, c'est une parole. Et voilà, donc moi je redis volontiers avec le pape François, avec Benoît XVI, avec toute la tradition de l'Église, qu'on n'est pas une religion du livre, mais de la parole vivante.
Cette parole vivante, vous parliez de ruminer et aussi de se poser. Je pense que dans vos ateliers, il y a peut-être ce temps de répétition pour entrer et d'écoute,
d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au début, on a un temps de relaxation, ou de danse, pour reprendre contact avec soi-même et puis aussi faire communion ensemble. Puis ensuite, donc, on apprend le récitatif cellule par cellule avec beaucoup de répétition. Puis on prend un temps ensuite pour commenter, pour regarder comment le texte, là où un geste qui nous a touché, une parole qui nous a touché, comme disait le père, et aussi comment fabriquer le texte, les oppositions, parce que on se rend compte que souvent c'était peut-être une tradition orale qui a été mise par écrit et on
c'est
retrouve
vrai qu'on oublie parfois cette respiration dont vous parliez tout à l'heure.
On retrouve dans les textes des oppositions, une façon de comme s'il y avait des moyens mnémotechniques dans le texte lui-même puisque notre objectif, c'est de mémoriser la parole à travers cette approche de, du geste.
Parce que c'est, ensuite, là où on découvre, c'est là où on découvre que la parole, elle est vivante parce qu'elle est, elle prend vie tout dans cette manière d'être dite, d'être proclamée. Le père parlait de proclamer, c'est aussi une manière de proclamer.
Et le fait d'être en groupe, c'est vrai qu'on, le fait de faire ensemble, on s'enrichit les uns les autres dans les remarques et il y a une joie qui ressort de ce partage et en général, après un temps de, on se pose aussi pour goûter, hein, comme vous disiez, goûter ce, les effets de cette parole en nous et ensuite on refait les récitatifs avant de se quitter. Voilà, donc c'est vraiment une nourriture pour nous.
On se rend bien compte, j'imagine, que cette parole est faite pour être accueillie.
Bien sûr.
Oui, quand on est ensemble.
Et tout ce que vous
voit,
avez dit, fraternité, on a aussi des rencontres intergroupes, et là, il y a beaucoup de joie à se retrouver et à gestuer ensemble, parce que la parole est vivante, et c'est le Christ qu'on rencontre à travers la parole. C'est le royaume de Dieu qui est présent, en quelque sorte, déjà là.
Alors, il y a ce temps pour descendre peut-être en soi pour écouter la parole, ce temps de partage avec d'autres. J'ai noté une autre initiative que j'ai trouvée intéressante, que vous avez développée à Épris en Église, c'est aussi se mettre à hauteur d'enfant.
Oui.
Alors, j'ai trouvé ça très beau. Est-ce que vous pouvez en dire plus ?
Bien sûr, tout à fait. Et de fait, j'y pensais quand vous nous partagez l'expérience de votre atelier. Et il y a dans la catéchèse, dans la lecture de la parole avec les enfants, toute une partie corporelle qui est justement pas à négliger. Voilà. Et un enfant n'appréhende pas la Bible par le cerveau. Voilà. Il apprend par l'ouïe, il apprend par le regard, il apprend par la bouche, il apprend par son corps, par les mains, par sa respiration. Et alors, nous avons fait pour cette édition du dimanche de la parole de Dieu, un dimanche de la parole et une proposition de prière et à partir des psaumes. Et alors, nous proposons aux adultes qui voudraient prier avec des enfants une trame où ils peuvent, nous avons sélectionné pour eux quelques versets des psaumes, genre « Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin tu écoutes ma voix », ou alors « Seigneur, ô ma force, viens à mon aide ». Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Voilà, tout un tas de versets psaumes et un déroulé d'une expérience de prière qu'on peut faire même avec les tout-petits.
Et la parole est bien vivante avec les tout-petits aussi. Nous parlons de la parole de Dieu. Est-ce qu'elle est vivante pour nous aujourd'hui? Je crois qu'on a quelques indications quand même qui nous sont données par nos invités. Vous êtes sur Grand Angle, sur RCF.
Quand je m'éloigne de toi, quand j'ai lâché ta main et rejeté ton aide, Seigneur, tu m'attends et ta voix me rappelle que rien ne nous séparera, car ta parole est une lampe qui brille sur chacun de mes pas. Quand je suis dans l'ombre, elle est lumière, elle est vivante et elle me relève chaque fois que je tombe. Quand j'ai perdu le désir de te donner ma vie et partout de te suivre, Seigneur, tu m'apprends à tenir au plus noir de la nuit, tout pourra refleurir. Car ta parole est une lampe qui brille sur chacun de mes pas. Quand je suis dans l'ombre, elle est lumière, elle est vivante cœur m'abandonne pour te dire je veux croire. Seigneur, tu es le Dieu très haut qui donne et qui pardonne, et je vis à nouveau.
Une musique de Steve Gernès et Raphaël Belmans, et aux éditions ADF Bayard Musique. Et nous écoutons cela puisque le thème de notre émission dans Grand Angle, nous parlons de la parole de Dieu, cette parole qui est bien vivante.
Grand Angle, RCF.
La parole de Dieu, alors la parole de Dieu, on essaye aujourd'hui d'en parler, de dire peut-être que c'est peut-être un message qu'on va faire passer aujourd'hui, ne pas avoir peur d'ouvrir la Bible, d'aller goûter cette savoureuse parole de Dieu que le pape François donc nous invite à redécouvrir avec donc ce dimanche de la parole de Dieu qu'il a institué, le troisième dimanche du temps ordinaire, qui sera cette année, donc pour la première fois, le 26 janvier. Alors, cette parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas que propre aux catholiques. Même d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'aux protestants, la Bible, elle est lue par beaucoup de personnes, et heureusement. Mais le pape François, dans sa lettre, invite particulièrement à cette fraternité des chrétiens, à cette unité. Je voudrais vous demander justement, peut-être, Père Jacques ou Karem, comment on peut s'enrichir entre protestants et catholiques sur cette nourriture de la parole de Dieu? Carême? Non, je perds Jacques.
J'ai beaucoup d'amis protestants, beaucoup d'amis pasteurs protestants, protestantes, des pasteurs femmes aussi, et on a souvent eu l'occasion de parler, de travailler la Bible aussi ensemble. Et aujourd'hui, je crois que une bonne lecture de la Bible par un exégète protestant et par un exégète catholique se rejoignent beaucoup. Les lignes de clivage éventuellement seraient plus sur des méthodes. Quelqu'un qui est plus absolument historique ou mais ce n'est pas des confessions. Ce ne sont pas les confessions chrétiennes qui éloignent. Au contraire, on lit ensemble. Alors je crois, je l'évoquais tout à l'heure, je crois que les églises protestantes ont eu un goût de la parole et une sorte d'assiduité à la parole bien avant que nous n'en ayons repris ce goût qui a toujours été dans l'Église, mais oui, les Églises protestantes ont fait redécouvrir qu'il y a là un trésor absolu, et donc là nous avons beaucoup appris et on peut la lire ensemble. J'ai participé plus d'une fois à des groupes œcuméniques de lecture biblique. Voilà, c'est un peu ce que vous disiez dans les groupes de gestuation. Eh bien, quand on voit comment la Bible est lue, reçue par l'autre, il y a une sorte de joie intérieure. Mais que j'éprouve aussi lorsque d'autres catholiques, par exemple, lisent la Bible. Je m'émerveille aussi quand des gens non chrétiens lisent la Bible et montrent qu'elle est un trésor. Plus d'une fois, j'ai aimé dire que la Bible n'est pas sous embargo des chrétiens. La Bible ne peut pas, ne pourra jamais être sous embargo. Elle est un livre ouvert à tous. Et c'est à la fois une joie et une responsabilité, églises d'ouvrir ce livre pour que la lecture soit averti. Il y a du travail pour mieux lire la parole de Dieu. Il y a du travail mais tout le monde peut la lire.
Pour les ateliers de Bible gestuée, justement, vous qui animez cela, ça vous demande beaucoup de travail avant de faire ces ateliers?
Donc, pour moi, je me prépare en travaillant les gestes et la parole et en sachant parfaitement. Mais en amont, si c'est fluide, c'est parce qu'il y a une équipe, qu'on appelle le labo chez nous, qui a travaillé la parole alors avec des spécialistes vraiment d'hébreu biblique, de grec ancien, pour vraiment revenir aux paroles de base, repérer les répétitions. Parce que quelquefois, dans les traductions, pour que ce soit fluide, on change. Alors que nous, au contraire, on garde les répétitions. Et quelquefois, on a des surprises. Par exemple, dans le texte du paysan patient, quand le blé est mûr et qu'on y met la faucille, quand le blé est mûr, je crois que le mot à mot, c'est quand le fruit se livre. Et le verbe « se livre », c'est le même verbe que celui quand Jésus donne sa vie. Quand Jésus se livre. Et ça, c'était très émouvant. Donc, on a gardé le fruit se livre. Vous voyez, c'est, et même un enfant du catéchisme disait, mais c'est Jésus qui se livre. Le fruit, c'est Jésus dans l'Eucharistie. Enfin, c'était vraiment, c'est les enfants qui nous évangélisent, c'est vraiment vrai.
Voilà. Donc, dans vos ateliers, vous avez des personnes de toutes confessions, ou même sans confession, qui viennent peut-être?
Alors, je sais que dans d'autres groupes en France, oui, il y a des personnes qui sont parfois très éloignées de l'Église. Donc, ça dépend beaucoup des groupes. Il y a des groupes qui sont rattachés à des paroisses, d'autres à des quartiers, d'autres à des communautés. Il y a une grande variabilité des groupes qui se constituent.
Alors, si des auditeurs sont intéressés, il y a des coordonnées, données par
tout
région, sur le site parole-et-geste.org.
Tout à fait.
Donc, voilà, tous ceux qui seraient intéressés pour développer, pour apprendre et peut-être rentrer différemment dans l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, vous pouvez aller sur le site. Alors, un autre peut-être public auquel on pense un peu moins, ce sont dans les prisons. Et voilà, alors prier en église dans le cadre toujours de cette opération, mais je sais qu'il n'y a pas que au moment de la parole de Dieu, vous êtes souvent très proche quand même des aumôniers de prison. Pourquoi particulièrement, et puis là, la parole de Dieu, en quoi ça, c'est important que ce
voilà.
soit présent?
Oui, effectivement, la parole de Dieu, c'est dans sa force libératrice de libération qu'en maison d'arrêt, elle a tout son sens. Et nous sommes témoins des lettres que parfois les aumôniers des prisons nous adressent. Nous racontons les expériences qui sont faites et dans les groupes de parole avec des personnes détenues. Nous, ça nous semble un peu évident de lire la parole et de trouver qu'elle peut nous éclairer, elle peut nous libérer, elle peut. Mais quand des gens qui sont vraiment en situation de exactement
ouais.
Faire l'expérience d'une parole, d'un langage, d'une image, d'une expérience de libération, c'est très très émouvant.
Et alors, ça donne envie, on se dit, mais moi j'ai envie ce soir d'ouvrir la Bible et de me dire, voilà, est-ce que je vais sentir une libération? Comment je peux expérimenter ça? Est-ce qu'il y a une véritable... est-ce que le contrat peut être respecté? La parole de Dieu, elle est vivante, elle va me libérer. Comment je peux vivre ça?
Alors, la parole est vivante, ça, nous n'avons aucun doute. Et la parole est agissante, ça, nous n'avons aucun doute. Après, est-ce que je le ressens à chaque fois? Et voilà, on fait appel à une expérience de foi et à une expérience d'accueil. Et c'est pas forcément parce que je ne le ressens pas à l'instant que la parole de Dieu, elle n'agit pas. De fait, parfois, les blés sont mûrs, mais si je ne me trompe et que je dorme que le moissonneur dorme ou il soit éveillé, le grain pousse pareil. Et donc, il faut pas qu'on s'affole. Il faut pas avoir peur d'ouvrir la Bible tout en se disant, oh là là, si je ne ressens rien, c'est que je suis nulle et que je n'ai rien compris.
Père Jacques.
On parlait de l'accueil éventuellement des faits par les personnes en prison de la parole de Dieu. Je pense que quand on est dans une situation de désarroi, de détresse plus grande, on écoute attentivement. Et là, les paroles d'espérance, on les prend. On les manque pas. Et donc, et c'est vrai dans chacune de nos vies, si j'arrive, que je lis à la sauvette, ça va peut-être pas me toucher. Mais si je suis un peu en attente, cette parole me touche plus profondément. Et c'est peut-être quelque chose que l'on n'a pas dit depuis tout à l'heure et qui me revient comme une évidence. Si on dit la parole de Dieu, une parole ouvre un dialogue. Et donc, quand Dieu parle, il ouvre un dialogue avec les hommes. Et je peux lui répondre. Carême a évoqué tout à l'heure les psaumes, qui sont un des lieux de la réponse biblique. Mais mon cœur répond à la parole. Et la parole me parle encore. Et c'est comme ça que naît un dialogue et qu'il touche et qu'il structure ma vie intérieure.
Il faut avoir le cœur ouvert. Dernière question, nous touchons à la fin de cette émission. Allez, petite question, réponse en quelques secondes de chacun de mes invités. Quel est le verset biblique ou peut-être le livre de la Bible qui vous touche aujourd'hui, qui vous accompagne? Alors,
moi,
Isabelle.
Je suis toujours touchée par Jean 20, le Marie et le Seigneur ressuscité dans le jardin.
Père Jacques.
Même pour aujourd'hui, parce que ça bouge un peu selon les jours, et c'est le psaume 62, « Dieu, mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi ». À quoi répondrait Jean au chapitre 21, « Seigneur, tu sais bien que je t'aime
ah. ». Carême.
« Je suis la vigne et vous êtes mes sarments ». Ça se trouve en Jean 15.
Eh bien, vous nous avez livré de vrais trésors. Nous parlions donc de la Bible, la parole de Dieu qui est vivante. Alors, vous pouvez retrouver toutes les initiatives que propose Prie en Église sur son site, prieenEglise.fr/dimanche-parole. Et puis aussi, donc, pour tous ceux qui seraient intéressés par la Bible gestuée, donc parole-et-geste.org. Vous retrouverez tout cela sur notre site internet et le podcast de cette émission. Merci, bonne soirée.